as raison, ma Brenda, c'est le résumé des nouvelles de la communication, du marketing, de la publicité et des médias en moins de 10 minutes. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
Le festival Orientalisme mettra Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'Horloge du Vieux-Port. Spectacle inédit, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez découvrir l'Orient aux mille et une couleurs. Pour plus d'informations, visitez festivalorientalisme.com. Le festival Orientalisme mettra Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'Horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal.
Pour l'hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Montréal à l'heure orientale du 2 au 5 août au quai de l'Horloge du Vieux-Port. Spectacle inédit.
Bon là, on s'excuse là, c'est le bordel d'un pub. Je sais pas ce qui se passe, fait que ça va faire. Là, on veut du gros fun, on enchaîne avec le show.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en festival. Hey, ça sonne bien bizarre. C'est-tu moi que ça sonne bizarre?
Non, non. Ça sonne écho.
Ça sonne écho en tabarnouche. Attends, on va faire des tests.
On a des nouveaux micros.
C'est-tu mieux ça? Non.
Non.
Tout est nouveau, fait que tout marche tout croche.
Simon, tu es dans la quatrième dimension.
Hey, c'est weird. Hey, j'espère que ça va être juste pour nous autres, que ça va sonner bizarre. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, on s'excuse si ça sonne weird. Hey, ça a pas de bon sens, je peux pas faire un show complet de même. Attends une minute, là.
Veux-tu confirmer la porte? C'est peut-être juste
non,
ça.
Non, non, c'est pas ça. Non, 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 ça... attends une minute. OK. Fait que quand je suis seul, ça va. Mais on dirait que vous avez un speaker l'autre bord. Là, vous êtes coupé, y a pas de problème. Dès que je vous embarque... je t'en écho. Fait que je sais pas de quoi. On va faire avec ça. Ça a l'air que c'est ça qu'on a aujourd'hui. Eh, bah boy. OK.
Hey, ça commence bien.
Ça commence bien. Ça commence bien. Fait que, hey, on se...
on m'a dit par un auditeur qu'on sonne pas écho de leur côté.
Bon, parfait. Fait qu'on va faire comme si rien n'était. Puis moi, ça va me gosser pendant une heure.
OK.
Bon. Hey, ça part bien. OK, on recommence. Allô? On recommence, OK? Bonsoir, chers créatures de la nuit. Bienvenue aux Oubliettes, votre émission de festival. Maudit qu'on est excités. On vient de finir la deuxième semaine du Festival Fantasia. Oh yes, level clear.
Bravo.
On est épuisés, mais quel party, quel party. On va avoir du gros fun.
On est en feu.
On est en feu. Brûlé surtout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Hein? C'est ça, le Fantasia. Mais cette année-là, je veux pas être négatif, mais ça a parti mollo. Hein? Je pense que c'est assez unanime. Les films de la première semaine, ça a parti très, très lent. On parlait plus de 6 sur 10, je dirais.
Oui. Moi, on n'a pas tapé de...
Moi, ils me disent à Horreur Québec que vous aimez rien, mais c'est pas juste Horreur Québec, là.
Non.
On s'entend, là, c'est un
feeling général. On s'est fait dire la même chose, okay, mais aussi les oubliettes qu'on n'aime rien, là. Okay, oui,
parfait. Oui. Ah ouais, mais les gens.
Parfait.
Oui. Mais c'est pourtant pas le cas. Moi, je suis un gros lover, mais c'est vrai que les premières projections... Le meilleur film que j'ai vu, moi, dans ma première semaine, c'est L'Inferno, avec la musique de Guarini, un film de 107 ans. Fait que si, en 100 ans d'évolution, t'as pas été capable de faire un film qui dépasse L'Inferno, je m'excuse, mais il y a un problème. Mais non, j'exagère, là. Je taquine. Mais heureusement, je pense que cette semaine, ça s'est beaucoup amélioré. On a eu l'opportunité de voir de bien meilleurs films. Elle a arrêté de faire des gesticulations.
Marc, il veut se faire finir.
Ouais, mais non.
Mais les, comme toujours. Tourne la caméra vers lui, puis c'est juste lui qui va passer à la TV. Hey boy, ok, hey, ça va être le bordel aujourd'hui. Hey, ok, ça fait déjà 5 minutes que ça roule, les boys. On n'aura pas le temps de parler de ce qu'on veut parler.
Vas-y.
Fait qu'on se lance tout de suite avant que le bordel empire. On va commencer avec Summer of 84, un film pour lequel on avait beaucoup d'attentes. Je sais pas par où commencer. Sa peau est faite l'unanimité. On fera pas le synopsis de Summer of 84. On a reçu RKSS. Ils vont probablement revenir aussi au prochain épisode pour faire un petit retour sur la réception. Mais moi, quand je suis sorti de la salle, a priori, je savais pas trop me positionner. Puis, des fois, j'étais un peu influençable. Je suis sorti avec une gang de haters, vous autres. Non, non. Mais avec des gens donc qui ont un peu moins trippé. Fait que sur le coup, dans mon incompréhension, à me demander si j'aimais ça ou non, j'ai réalisé que, ouais, je pense que j'ai pas aimé ça dans le fond. Mais au bout de 2-3 jours de réflexion, j'ai pu mettre le doigt sur ce que j'ai pas aimé, sur ce que j'ai pas aimé. Donc, au final, je pense que j'ai quand même eu du plaisir, mais c'est un film qui est très lent à partir. C'est comme un slow burner où finalement c'est flat, 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 puis à un moment donné, whoop, là ça part. Mais je pense que la première partie l'a pas fait pour moi. J'ai eu de la misère un peu à m'attacher au personnage. Je pense qu'il manquait peut-être un peu de chimie entre eux pour que j'accroche vraiment. Toutefois, la deuxième partie, là j'embarque un peu plus. Là ça commence à bouger. Autre détail que j'ai pas aimé, on dira pas c'est qui, bien entendu, mais le ou la méchante ou méchant du film, j'en aurais pris plus. Je pense qu'on manque beaucoup, on n'a pas sa motivation, et ça, je trouve ça dommage, mais faut pas oublier que c'est un film sur la bande de jeunes, puis je pense que c'est là que l'accent est mis. En même temps, ça laisse en quelque sorte une fin ouverte, peut-être que c'était une volonté de vouloir faire une suite éventuellement, je le sais pas. Oubliez pas aussi que c'est un film qui est non seulement scénarisé par d'autres mondes que RKSS, donc ils l'ont seulement réalisé. Mais en plus, j'avais pas catché ça, mais le scénariste est aussi le producteur. Fait que t'oublies ça, je vais faire des changements dans le scénario, ça arrivera jamais, là. Puis RKSS, bon, j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je le dis pareil, parce que je fais ce que je veux, c'est mon émission. Mais ça, eux autres aussi auraient aimé faire des changements dans le scénario, mais comme le scénariste et le producteur, t'oublies ça, ça arrive pas. Mm-hmm. Mais malgré tout, j'ai eu beaucoup de plaisir à la deuxième partie, un peu plus, mais comme j'étais un peu endormi par la première, ça prend du temps à embarquer, je dirais. Ça prend du temps à trouver son rythme. C'est ce que je trouve dommage. Pour la défense d'RKSS, en terminant, moi, je dirais que c'est, par contre, merveilleusement réalisé. Le visuel est incroyable. Je pense que ils savent saisir un bon éclairage, une belle direction photo. Puis moi, je suis vendu d'avance avec la musique, qui était encore un hommage à Elise, qui rappelait Turbo Kid. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en deuxième partie. Mais je pense qu'en studio, je suis le seul qui veut en parler. Personne ose, hein?
Moi,
soyez
honnête,
c'est correct, là. Vous avez le droit, tu sais.
Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Le plus gros problème du film, c'est son scénario, qui prend comme... Ben, je vais pas trop résumer qu'est-ce que t'as dit, mais qui prend vraiment du temps à décoller. Et je trouvais que ça manquait d'audace. Vraiment, là, je veux dire, il y a une scène un peu gore, là. Je dis gore, puis...
Ouais, il va pas plus loin. Il y a une scène plus épique que les autres.
Mais j'en aurais pris plus. Je suis pas mal sûr que... Tu sais, ils sont excellents dans le gore, là, en plus. Là, il aurait pu oser un petit peu plus. Puis moi, tu veux la musique? On dirait qu'elle m'a tapé un peu sur les nerfs.
Ah ouais?
Ouais. Puis j'étais fan, tu le sais, j'étais fan des années 80 à fond. Ouais. J'ai adoré aussi la musique du Matos dans Turbo Kid. Puis il y a quelque chose par rapport aux effets sonores qui était, je sais pas si c'est la salle qui était mal calibrée, le téléphone sonnait là, mais d'aplomb, là, j'ai pas fait de saut, mais
miracle, mais
vraiment, ça m'a fait décrocher.
Je fais une parenthèse, ça je pense c'est Fantasia en début de festival. C'est toujours ça leur prend toujours quelques jours calibrer le son avant qu'il soit optimal. C'est toujours trop fort en début de festival, c'est peut-être ça.
Puis as-tu vu, par exemple, je vais leur donner ça, moi il y a une scène qui a été terriblement efficace dans la maison de la méchante ou du méchant, qui m'a quand même terrifié un peu, mais trop peu trop tard.
Okay.
Vraiment vers la fin. Les autres?
Ça, est-ce que ça ressemble à ça un peu pour tout le monde ou je sais que Steven, t'étais négatif avec véhémence quand on est sorti là.
Écoute, moi, je suis un gros fan des réalisateurs, puis j'ai beaucoup aimé Turbo Kid, qui avait été un coup de cœur. Puis tu sais, je l'ai su depuis leur début de leur carrière. Puis ben j'avais beaucoup envie d'aimer Summer, mais tu sais, le trailer m'avait pas tant marqué. J'étais comme, on s'en va dans un sentier qui a été vu et vu, archivu. Je me disais, est-ce qu'ils vont arriver à se démarquer avec une surprise?
Ouais, ok.
Et moi, ce que j'ai à dire, c'est la mise en scène est très réussi, sont vraiment doués pour aller dans les détails pour une reconstitution de l'époque, puis ils vont vraiment chercher des petits trucs qui arrivent à jouer sur ta nostalgie qui sont vraiment le fun. La musique de Mator, c'est bonne, mais comme Eric, je suis d'accord, c'est un petit peu trop présent. Puis la photographie est solide, vraiment, là, solide photographie. Malheureusement, le scénario m'a emmerdé et ça me fait vraiment, excusez-moi, mais chier de dire ça, mais ça m'a vraiment emmerdé parce qu'on se retrouve avec des personnages stéréotypés au bout. Le rebelle que ses parents sont en chicane, la fille qui veut quitter la ville, puis elle a des plus grands projets. Puis c'est vraiment des stéréotypes pour chaque personnage. Puis surtout qu'on a eu, Hip Stranger Things dans les dernières années. Fait que là, j'ai l'impression que ce groupe-là fonctionnait moins en termes de chimie qu'avec les autres que j'ai vécu. Fait que je me suis jamais vraiment attaché à eux. Puis pas que les acteurs sont mauvais.
Non, bah, sont excellents.
Ils sont excellents. Je crois que c'est vraiment un problème d'écriture, surtout dans les dialogues. Puis il y a jamais de moment où qu'on a vraiment de l'intimité avec eux, des vraies conversations où qu'on apprend à les connaître plus en profondeur. C'est tout le temps en surface entre, ils se font des jokes dans la cabane, vont faire une petite enquête pour essayer de trouver si leur voisin est un meurtrier. On en revient dans une petite cabane, tu sais, c'est très répétitif.
Ouais. Les jokes sont pas drôles. Hein?
Les jokes sont pas tant drôles.
Non, j'ai pas ri tant que ça.
Fait que je pense que c'est ça. Dans le fond, c'est dans l'ensemble, la critique semble être la même. Le problème du film, c'est pas RKSS, c'est le scénario.
C'est le scénario.
Parce que les autres ont fait un travail remarquable avec ce qu'ils avaient, mais le scénario est pas à la hauteur.
Non, mais j'allais juste dire, bon, vous avez trouvé le moyen gentil de pouvoir excuser les RKSS.
Non, on se cachera pas qu'on les aime, RKSS, ben oui, qu'on les défend. Mais n'empêche, moi, ça m'a pris un temps de réflexion pour vraiment me poser la question, parce que justement, parce qu'on les connaît, j'ai l'impression qu'on les a durés. Moi, en tout cas, je peux pas parler pour les autres, moi, je les ai jugés un peu durement, a priori. C'est pour ça que je voulais me donner le temps. J'ai hâte de le revoir, en fait. Je sais que certains voudront pas, mais moi, j'ai envie de le revoir. À cause de mon jugement, parce que je le sais comment je juge. Mais toi, vas-y, t'avais l'air de vouloir dire plus.
Moi, en fait, je dis pas vraiment mon opinion sur ce film-là parce que je me suis fait tirer, obligé d'aller le voir. J'avais même pas le goût d'y aller.
Ben voyons.
Mais pour vrai, moi, j'ai pas la nostalgie des années 80. Okay. Ça m'intéresse pas de retourner là-dedans. Fait que, ben, tu sais, j'ai quand même eu passé un moment. J'ai pas eu une soirée à chier, là, on s'entend. Mais
Tabarnouche, c'est dur, les boys.
On est objectif.
L'objectif, c'est de te faire divertir. Puis c'est pas tant qu'il n'y a pas de gore ou que c'est un slow burn. C'est que souvent, j'arrivais pas à accrocher. Puis c'est dommage, mais j'arrêtais pas de penser à Disturbia avec Shia LaBeouf, qui a exactement le même scénario à la base, qui m'a beaucoup plus captivé parce que il arrivait à avoir des personnages mieux écrits. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça.
Moi, je pensais à Vampire, vous avez dit Vampire.
Oui, c'est évidemment qu'on pense à ça. Ou à Fred Hitchcock, Rear Window, c'est impossible de pas penser à ça.
Ok, ben bon, regardez, moi je dis qu'on déclare officiellement maintenant la rafale, parce que là on a beaucoup de films à parler. J'aimerais ça commencer avec un film positif. Olivier, t'as trippé sur Blew My Mind.
Oui, ben positif c'est relatif.
Oui, mais vous allez en discuter.
C'est à moi qui a parlé.
Oui, excusez-moi.
Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Blew My Mind, c'est un film que je m'attendais pas du tout, soit aller voir ou aimer tout court. Je me souvenais plus de la bande-annonce, puis c'est Eric finalement qui m'a dit « Ah, je m'en vais voir Blew My Mind », mais avec la magie...
Mais peux-tu nous résumer le synopsis, la base?
Oui. Tu sais, grosso modo, c'est l'histoire de Mia, c'est une jeune fille, une jeune adolescente qui déménage dans une nouvelle ville à cause du travail de son père quelque part en Suisse. Puis elle décide, bon, elle veut se faire accepter dans sa nouvelle école, elle veut rentrer dans la clique des cool girls. Et entre-temps, ben, elle a ses premières règles et devient femme. Mais son corps commence à changer. Donc,
Au-delà de la simple puberté.
Et moi, ce qui m'a fasciné par rapport à ce film-là, puis je veux pas le spoiler ou quoi que ce soit.
Non, faut pas voir la bande-annonce en
Regardez pas la bande-annonce. Y allez-y vraiment en un blind watch en tant que tel. C'est un film à savoir. Bon, est-ce qu'on peut savoir une fin peut-être un peu prévisible? Ben oui, on parlait de ça. Oui, on le sait ce qui va arriver. Moi, c'est vraiment plus le développement de ce personnage-là, de cette jeune fille-là. Écoute, cette jeune actrice-là de 14 ans, je crois, qui porte le film sur ses dos et que c'est vraiment une
sur
histoire...
Sur ses dos, elle a plusieurs
sur
dos.
Sur son dos.
Nice.
C'est un coming-of-age movie qui est super bien fait, très bien interprété. Oui, qui tombe dans certains stéréotypes de la jeune fille du secondaire qui va faire des mauvais choix, qui veut faire partie de la mauvaise clique en tant que telle, qui a sa crise d'adolescence, qui devient femme en tant que telle. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant au niveau de son personnage, c'est que oui, en changeant, en devenant femme en tant que telle, elle s'accepte pas, mais pas du tout. Ça vient que c'est transformation, mais vraiment pas, elle comprend pas ce qui se passe. Elle va tomber vraiment dans une débauche à un moment donné, là. Je m'attendais pas à ce que ça soit rough comme ça. Il y a des scènes qui c'est borderline explicite, là. Vraiment, là, ça frôle. Et moi, la beauté poétique de la fin du film, les cinq dernières minutes que moi, qui m'ont complètement charmé, j'ai tellement trouvé ça beau. Et c'est un personnage auquel je m'identifie un petit peu à mon adolescence, donc il est venu me chercher un peu. Mais overall, par rapport à ça, au niveau de la performance, cette petite fille-là, Wilder, quelque chose comme ça, Laura Wilder, elle va tomber dans le marché américain à un moment donné, c'est clair, parce qu'elle a énormément de talent. Et c'est une femme, réalisatrice Brunham, qui est à son, je pense, deuxième long métrage. Et que je vais suivre. Donc, moi, c'était mon coup de cœur. Je sais qu'Éric a une opinion différente.
Ben, en fait, moi, c'est juste complètement de l'indifférence. Ça m'a pas touché. Je me suis dit, on est vraiment terrain connu, sauf pour...
Quelques détails. Disons quelques détails.
Ouais, quelques détails, quand
on
même.
On peut pas spoiler.
C'est un très beau film. Merveilleusement bien interprété. Les amis de j'oublie son nom.
Demia,
oui. Me tapait royalement sur les nerfs.
Oui, c'est voulu. C'est...
Je me dis bon, encore, on donne un portrait très cliché de l'adolescence.
Mais c'est encore ça aujourd'hui.
Je sais, mais peut-être que moi, vu que j'ai vécu une adolescence assez très paisible, donc c'est pas venu me toucher. Donc, okay. Mais j'ai donné les qualités. Je pense que c'est un film quand même à voir. Là. Tu dis, j'ai pas détesté ça. Ça m'a juste laissé complètement indifférent.
C'est un de mes coups de cœur, je dirais, Simon. Date cette année.
All right. Bon, ben, Marc, t'as pas parlé beaucoup encore. J'aimerais t'entendre sur Lose parce que ça, c'en est un que j'ai extrêmement hâte de voir puis j'entends que des bons commentaires.
Ouais, en fait, c'est Lose parce qu'on.
Ouais, Lose.
On prononce Lose depuis le début du festival, mais ce n'est pas ça. C'est la curiosité de. Ben, eux, en fait, une des curiosités de Fantasia.
Dans le cadre de Caméra Lucida, justement.
Oui, exactement. Un film qui est vraiment dans l'esthétique des années 70, qui est un film aussi, un film étudiant, donc un film de thèse, ce qui est assez surprenant, en fait, quand on écoute le film, parce que c'est mon coup de cœur, là. J'ai donné une super note à ce film-là. C'est une réalisation allemande. C'est présenté en première nord-américaine ici. On avait vraiment hâte de le voir parce que le mot en Europe était très très fort pour ce film-là. C'est difficile de raconter la prémisse de ce film-là parce que c'est très
déconstruit.
C'est très déconstruit et un peu chaotique. En fait, on sort de là puis on peut faire plusieurs interprétations de ce qu'on vient de voir. Mais en gros, on suit une jeune chauffeuse de taxi qui rentre dans un poste de police pour se faire interroger sur sa dernière course de taxi. Et puis, pour ce faire, là, il y a un psychiatre enquêteur qui l'hypnotise. Donc, pendant le... C'est un court film, hein, 70 minutes. Puis c'est bien parce qu'on est vraiment dans l'expérimentation. Donc, tu sais, ça reste quand même... regardable.
Oui, il n'y a pas de longueur.
Oui, non, c'est ça.
Ça passe vraiment vite.
Et puis, ben, en fait, la majeure partie du film, c'est cette hypnose-là qu'elle va vivre. Donc, c'est un jeu de montage excessivement précis où elle est dans la station. Certaines scènes, elle a des objets qui lui arrivent dans les mains. D'autres scènes, elle se retrouve dans le taxi. Donc, c'est un jeu cinématographique vraiment excessivement stimulant à regarder.
On s'était dit que c'était jamais vu. Cette scène-là, particulièrement. Oui. Là.
Puis c'est difficile à décrire. Ça, ouais. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est un film qui se vit et qui se, ouais. qui ouais. se regarde et qui s'écoute aussi parce que même la trame sonore est magnifique, excessivement oppressante, aussi inspirée de ces années 70. C'est très art house Europe. Et puis, bah, ça nous rappelle un peu des films comme justement le Possession ou moi ça m'a rappelé aussi un peu Angst, okay. le film allemand, mm-hmm. pour ceux qui connaissent. Mm-hmm. Donc une belle curiosité. J'ai peur que ce film-là on le revoie jamais, mais espérons une distribution un jour.
Ouais, comme c'est un film, comme c'est un film entre gros guillemets radiophonique étudiant. Oui. Est-ce qu'il va trouver un distributeur? Ouais.
Ouais,
mais en même temps, il y a tellement de très bons commentaires sur le film jusqu'à date. Oui. On lui souhaite un beau réseau de distribution. Effectivement.
Si vous tombez sur ce titre-là, là, puis êtes curieux, regardez ça.
C'est vraiment à voir. C'est une expérience.
Cool. Ben, en parlant d'expérience, Eric, j'aimerais ça que tu me parles. OK, puis tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Tu as eu la chance incroyable de pouvoir profiter du VR.
Oui. En fait, Marc m'a accompagné dans cette belle expérience.
Une aventure.
Ben, toute une aventure.
Accompagné, c'est vite dit. Il est venu te tenir la main.
Oh
my God.
Il m'a filmé.
Ah oui, je vois ça.
Vraiment, il m'a surveillé pour pas que je fasse une crise de cœur.
Ouais.
Quand même. On était allé samedi. C'était durant 3 jours. C'était jeudi, vendredi, samedi. Donc, juste pour vous mettre en contexte, nous, on est arrivé, ben, en fait, je suis arrivé à midi, parce que Marc est en retard. Il y avait seulement un poste pour essayer des films.
Hey, yeah.
Donc, je vous laisse imaginer, moi, quand je suis arrivé, il y avait juste une personne en avant de moi, donc c'est pas si mal. Mais quand on est parti, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Hmm. Donc, les films durent en moyenne peut-être entre 10 et 15 minutes.
Il y en a une poignée qui sont à peu près 4 minutes, mais puis ceux qu'on veut voir, les meilleurs, ceux d'horreur, sont comme 10-15 minutes.
Parce que nous, on allait là pour deux films d'Alexandre Aja, mm-hmm. qui a réalisé bon, Haute Tension, le remake de Hills Have Eyes. C'était The Skull of Sam avec Robert Englund et Midnight March. Alors, c'est moi qui ai eu la chance de commencer. Donc, je m'installe, je fais le premier film. J'ai commencé par Midnight March. Donc, c'est comme... Le principe est le même pour les deux. On se retrouve autour d'un feu de camp avec des enfants et ils se racontent des histoires pour se faire peur.
Juste préciser que c'est deux épisodes d'une série.
Oui,
ouais,
oui,
c'est
excuse-moi.
Ça.
Oui, t'as raison.
Campfire Creepers.
Oui, excuse, oui.
C'est ce que c'est Campfire Creepers, puis les titres que t'as donnés, c'est comme les sous-titres.
Ouais,
c'est comme les épisodes.
Ben, c'est correct. C'est correct.
Non, oui, c'est correct.
Non, non, mais c'est correct. T'es pas invité la semaine prochaine.
Non, je sais. J'en reviens plus. Donc, c'est ça. Je commence par celui-là. C'est intéressant. Si on parle que de l'expérience virtuelle, c'est quand même bien fait. Le premier est plus comme Goosebumps, là, c'est une gang qui se promène dans le bois, leur moniteur les réveille pour les faire comme suer un peu. On se promène dans le bois à minuit, ils ont peur, il y en a un qui se fait pipi dessus et tout le monde rit de lui et là il se transforme en une créature que je vais vous garder la surprise si vous le faites et il y a un massacre. Donc ça c'est intéressant, je trouvais par exemple qu'on voyait pas tellement des meurtres, donc évidemment à la fin il y a un jump scare.
Hey, ça, beau.
Ça c'était magnifique.
Tu l'as filmé?
Mais
ben ça je l'ai vu, je m'en souvenais toute ma vie.
Ouais. En fait celui que j'ai essayé en deuxième parce que j'ai eu la chance de faire les deux, The Skull of Sam avec Robert Englund, vraiment mieux réussi. On se retrouve dans une histoire d'un collectionneur. Lui collectionne des crânes. Il kidnappe deux campeurs qui se retrouvent enterrés jusqu'au cou. Et là, on a la vision de ces personnes enterrées là. Et on a, moi, je pensais tout le temps à Freddy. Là, je m'excuse. Là, j'avais Freddy comme dans ma face. Puis je trouvais ça, c'était efficace. On a une histoire avec des insectes. Puis t'as vraiment l'impression qu'ils sont sur toi. Pis c'est vraiment efficace au bout. Là. À un moment donné, il me verse il me verse comme si c'était à moi, mais il verse du liquide sur moi et j'étais. Là, on voit pas radio, là, mais j'avais les mains dans les airs.
Il est en train de se squello sur la tête.
C'est ça, tu sais. Donc, pour ça, vraiment. À essayer juste pour celui-là, là, vraiment, c'est vraiment le fun.
Parce que là, on va. Ben, non, vas-y, je vais revenir après.
Donc, j'arrête ça. En fait, juste pour faire une parenthèse, j'ai demandé à la bénévole est-ce que je peux faire le deuxième, mais elle m'a dit oui, il y avait presque personne. Et là, je termine mon expérience autour de Marc. Et là, il y a pas mal plus de monde. Et la petite dame a dit à Marc, ben après 10 minutes, c'est fini. Donc, elle arrête. Et juste pour vous dire, là, les deux films durent 12-13 minutes.
Fait
donc,
que il l'arrête à 10 minutes, donc, tu manques la fin de ton film.
Marc n'a pas vu la fin.
C'est complètement absurde.
J'ai donc, 10 minutes de Skull of Sam, c'était quand même 10 minutes assez cool, mais j'aurais aimé ça voir les deux dernières minutes.
Mais c'est vraiment bizarre comme setup, parce que l'année passée, il y avait au moins 3-4 stations pour le VR, puis justement, il n'y avait pas d'attente.
Je peux vous l'expliquer, je l'ai su, c'est quoi qui s'est passé. En fait, là, je fais ça simple, là. C'est un deal entre mon VR et le Festival Fantasia. Il n'y a aucun argent en jeu. Fait que Fantasia est content d'avoir VR comme événement de plus et VR est content de venir faire la promotion. Fait que le problème, c'est que VR, vu qu'il n'y a pas d'argent en jeu, avait d'autres événements en même temps. C'était le jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, si je me trompe pas, il y avait 4 stations, mais rendu au samedi, il a fallu qu'ils partent avec des stations pour un autre événement plus, en tout cas, selon eux, plus avantageux, clairement, là. Fait qu'à la fin, il restait juste une ou deux stations, puis c'est pas tous les films qui étaient disponibles. Fait que c'était un peu chaotique comme événement VR, mais je vais... En fait, j'aime le VR, fait qu'on va quand même leur faire un beau saut.
Si vous avez la chance de payer ces deux films-là, je vous dirais, allez-y. Ça reste un goût un peu amer.
Ben, c'est ça, en fait. C'est juste, à Fantasia, c'était pas idéal, mais oubliez pas, hein, on se demandait au début. Ben, pourquoi il y a des boutiques de VR? Tu rentres là et ils te mettent un écran d'en face, ça n'a pas rapport d'avoir des boutiques? Non. C'est exactement pour ça. Si tu veux l'acheter, si tu veux l'essayer, si tu veux en profiter, c'est pour ça que ça existe. Allez-y à mon VR. Il y a des boutiques un peu partout à Montréal. Il y en a à Québec. C'est l'opportunité que vous avez de pouvoir essayer cette expérience-là dans un environnement qui est fait pour ça. Profitez-en. Si ça vous plaît, ben, allez essayer là.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu dommage parce que là, on se retrouve avec une sélection de films en VR.
Ouais.
Puis c'est plus. C'est pas une expérience où tu vas découvrir des films en VR, c'est une expérience où tu vas découvrir la VR.
Ouais.
Donc, tu sais. Sélectionner moins de films, peut-être plus des films
moins longs.
Ou des films moins longs ou des films qui vont utiliser le plein potentiel de cette technologie-là juste pour nous impressionner. Puis après ça, on va aller voir nos films ordinaires, mais c'est un peu dommage pour
côté événementiel à Fantasia, c'était mal organisé.
Oui, tout à fait.
Bon. Steven.
Oui.
T'as vu By Bust.
Oui, un film qu'il n'y a pas vraiment eu de promo de Fantasia. Tu sais, Fantasia, souvent, il mise sur des films. Tu sais, Night Shifter, t'avais des bonnes annonces avant.
Mm-hmm.
Puis moi, je suis By Bust depuis le début du tournage de ce film-là. Puis personne savait c'était quoi. À chaque fois, je disais, hey, vous devez aller voir By Bust, quoi. By Bust. Puis la salle était pas tant pleine. Je suis comme, mais vous avez manqué de quoi? Puis tu sais, By Bust, honnêtement, c'est pas mal le film d'action philippin qui va les faire rentrer dans la cour des grands.
Okay.
C'est pas mal ce que Humpback est pour la Thaïlande puis The Raid pour l'Indonésie. Ben ça, c'est comme la prochaine grosse claque d'un autre pays. Puis écoute, c'est vraiment de la bombe, là. By Bust, ça raconte une histoire très similaire à The Raid. Tu vas juste suivre un groupe de narcotiques qui vont essayer d'aller chercher un gros cahier de la drogue dans une espèce de bidonville aux Philippines. Puis ils vont essayer de prendre un appât pour se rendre jusque-là. Puis ils vont s'incruster dans un bidonville vraiment labyrinthique puis gigantesque. Puis évidemment, ça va foirer. Ils vont rester pognés là puis être entourés des truands qui veulent les tuer, plus les villageois du bidonville qui sont juste écœurés de la situation de leur vie puis tout ça. Et c'est vraiment juste 1h30 non-stop de carnage et d'action dans une atmosphère cauchemardesque. C'est hallucinant, ce film-là. La cinématographie de ce film-là est vraiment digne des plus grands films d'horreur que j'ai pu voir en termes de setup puis d'atmosphère. T'as vraiment l'impression d'être dans une espèce d'endroit où que c'est le seul, c'est l'enfer sur la terre. Il y a de la bouette, ça mouille partout. Les gens du SWAT sont jamais en sécurité, là. Il peut prendre 2 secondes puis discuter dans un coin. Il y a quelqu'un qui va arriver derrière avec des bouteilles cassées qui va les poignarder. Il y a du monde qui tombe d'en haut. Ils se font tirer de partout. Ça fait très Assault on Prince 13 dans l'atmosphère. C'est
claustrophobique
vraiment...
à travers la bidonville.
C'est claustrophobique au max, puis vraiment cauchemardesque. Puis le réalisateur arrête pas de se réinventer à chaque scène d'action. Il utilise à fond son décor. Il trouve des nouveaux moyens d'exploiter les chorégraphies. Puis à un moment donné, t'as un long plan séquence où c'est la fille qui va monter de toit, revenant en bas en massacrant des dizaines de personnes. C'est vraiment hallucinant. Puis l'actrice principale, c'est pas mal la nouvelle star d'action qu'on va probablement parler dans les prochaines années. Anna Curtis, super charismatique, un personnage attachant, puis elle est vraiment badass. Puis cette année, on est quand même chanceux avec les personnages féminins forts. T'sais, on a eu Revenge, que j'avais beaucoup aimé, qui est aussi un personnage vraiment badass. Ben, celui-là vient de rejoindre ça. Et... c'est ça qui est cool, t'sais, c'est vraiment un film qui est axé sur l'action, mais je pense que les amateurs d'horreur pourraient s'y retrouver. Puis la finale du film, ça se termine sur un plan séquence vu de haut, et tu vois tout le bidonville au complet qui est vraiment gigantesque avec tous les cadavres depuis le début. Je pense à le prix au-dessus de 500 figurants et plus pour ce plan-là qui est vraiment impressionnant. Puis honnêtement, c'est juste ça. Moi, je m'attendais à prendre une claque, je me disais que c'était un film de festival, et j'ai trouvé que le public était peut-être pas au rendez-vous. Je pense que les gens vont regretter, puisque le film a eu sa première 2 jours avant à New York, avant que ça soit présenté ici, et les reviews étaient vraiment hallucinantes. Le monde a vraiment trippé, il y avait vraiment une bonne atmosphère. Fait que, écoutez, ça vient, c'est distribué par White Go. Le film sera disponible le 16 octobre en Blu-ray. Gardez l'œil là-dessus, allez voir la dernière bande-annonce qui est sortie, qui est vraiment efficace. Mais ceux qui sont amateurs de Raid style, mais dans un contexte plus brutal, plus primal, c'est vraiment un film de survival à fond là. Ça va chercher l'instinct primal au maximum. Puis honnêtement, j'ai vraiment trippé là.
Deux choses, on était où nous autres?
J'ai jamais entendu parler
et
de
deuxième
film.
Chose
c'est me le vendre bien raide.
Et deuxième chose, mais il est donc bien bon Steven.
Ouais, Steven pour vendre quelque chose et...
C'est pas sarcastique, Steven. T'étais en feu, c'était malade.
Vrai.
Alright, tu m'as donné le goût.
L'année passée, c'était quoi? C'était Ghost, hein?
Oui. Hein? Il nous avait vendu ça, là.
Ghost Story.
Ouais. Ghost Story, c'est ça.
C'est pas tout le monde qui a aimé, mais c'est pas grave.
En tout cas, si vous en voulez plus après le festival, n'oubliez pas qu'il anime Séance de minuit. Ceci étant dit, moi, j'ai le goût de jaser de Night Shifter. J'avais envie de l'aimer et je l'ai aimé. C'est pas un film parfait. Night Shifter, réalisé par Denison Romalo, un film brésilien d'horreur. Synopsis, je vais faire ça simple. C'est un gars qui travaille à la morgue. Ça va pas bien avec sa femme. Tu sais, situation familiale un peu rough, là. Tu sais, ça va pas bien avec sa femme. On pense que sa femme le trompe. Lui, il travaille à la morgue et il a un pouvoir spécial qu'il ne comprend pas. Il entend les morts lui parler. Donc, c'est comme ça, ça part dès le début. Il parle aux morts. Il y a sa situation familiale. Éventuellement, je vais essayer de pas le spoiler, quoique ça arrive quand même assez tôt dans le film. Il arrive quelque chose dans sa situation familiale. Et là, non, je pense que je peux le dire, c'est quand même important.
Oui.
Sa femme, donc, effectivement, le trompait. Elle va décéder parce qu'il va caler, dans le fond, un tueur à gages pour l'autre homme, mais sa femme va y passer aussi finalement, et c'est là que le film d'horreur embarque. C'est une histoire, je dirais, c'est un peu comme un ghost story, possession, mais il y a beaucoup de clichés, on se le cachera pas, c'est un film qui est très cliché, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, notamment pour son design et son ambiance sonore. Moi, j'ai eu du gros fun. C'est très lugubre, c'est ça que j'ai aimé. C'est lugubre, c'est sale. C'est des gens confortables, là, qui sont pas si pauvres que ça, mais on est dans une région brésilienne qui, elle, est pauvre à la base. Donc, on sent que tout est sale, on sent que tout est suintant du début à la fin. Et c'est une histoire familiale avant tout. J'ai aimé l'approche, j'ai aimé le regard. Malheureusement, le fait qu'il parle aux morts, ça prend vite le bord. C'est vite tassé. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Je pense que j'aurais préféré. Je vous le spoilerai pas, donc je vous dirai pas c'est quoi la possession, les fantômes et tout ça, mais J'aurais préféré qu'on se concentre sur le fait qu'il parle aux morts et que qu'il y ait plus, hein, qu'il y ait plus de décédés qui font partie en fait du thriller, du suspense. Malheureusement, ça c'est un peu mis de côté. On se concentre sur un seul aspect et ça va être ça jusqu'à la fin. Malgré tout, malgré ces jumpscares gratuits et ces quelques clichés sur
J'étais pas là, hein?
Ouais, ouais.
Pendant le trailer, oui.
Mais c'est ça. Malgré ces quelques clichés, j'ai vraiment eu du plaisir. Le look, le design, la direction photo et l'ambiance sonore et le jeu des acteurs qui est excellent. Moi, j'ai adoré le personnage principal. Ça a fait que j'ai pardonné tous ces clichés saupoudré de films d'horreur, de jumpscare et tout ça. Mais ça a l'air que je suis dans la gang, il y en a d'autres. C'est qui déjà qui l'a vu? Marc, tu l'as vu. T'as moins trippé, toi, hein?
Moi, t'as moins aimé ça. Ouais, moi, j'ai moins aimé ça. En fait, j'attendais ce film-là aussi comme le Messie. J'étais comme... C'est sûr que ça va être mon film préféré. C'est sûr que ça va être mon film préféré. Puis, mais surtout parce que j'ai suivi aussi les courts-métrages de ce... Faut le dire, c'est son premier long-métrage qu'il faisait. Puis, ses premiers courts-métrages ont été tous présentés à Fantasia. Je les ai tous découverts à Fantasia. Puis, c'était des films, si vous pouvez mettre la main là-dessus, Love from Mother Only, puis Ninja particulièrement, qui m'a bouleversé. Ça fait 7 ans que je l'ai vu, puis j'y repense encore des fois la nuit. C'était des films tellement viscérales là, qui sont venus me chercher là, vraiment au plus profond de moi. Puis quand j'ai vu la bande-annonce de The Night Shifter, j'étais comme, OK, là, ça va être ça, mais pendant genre 1h30, là, je vais-tu être capable de survivre à ça? Puis finalement, le film m'a pas fait grand-chose. C'est pour ça que je suis un peu resté sur ma faim, puis peut-être à cause de mes expectations.
Mais t'es-tu capable de dire ce que t'as pas aimé? T'as-tu juste pas embarqué ou t'as vraiment eu des irritations, disons?
Ben, j'ai vraiment eu des irritations à un moment donné. En fait, quand tu parlais de la portion où il parle des morts, il parle avec les morts, en fait, cette portion-là du film, j'ai trouvé ça excessivement intéressant, puis j'aurais aimé ça que ça se concentre aussi, moi aussi là-dessus. Quand il parle avec les... En fait, quand les morts parlent, il y a comme une reconstruction en 3D par-dessus leur visage. Mm-hmm. C'est vraiment hot.
C'est hyper intelligent. Pour en parler, l'utilisation du CGI dans la vie, on sait comment qu'on aime ça ici. Puis moi, j'ai trouvé que quand un corps est mort, quand t'es en décomposition, le look que ça leur donne quand ils se mettent à parler, ça rend ça encore plus réaliste, encore plus creepy. Ça, j'ai beaucoup aimé cette touche là.
C'est une belle approche.
J'ai trouvé ça très très intelligent de sa part. Là. Moi aussi, c'est un aspect du film que j'ai aimé, mais
après ça, c'est ça. J'ai trouvé un peu que ça allait dans plein de directions. Ouais. Il y a cette histoire de vengeance.
C'est un peu tout mélangé.
Tu pensais à The Grudge avec Drag Me to Hell, puis.
Je m'attendais pas à quelque chose des scènes aussi clichés. Il y a des scènes, il y a une scène, c'est pas un spoiler, il y a une scène, il arrive dans son salon, il y a des fils de...
C'est Mario Bava tout craché,
Il y a des fils comme super coupants installés partout. Ouais. Ouais. C'est super beau, mais pourquoi? On sait pas. C'était là parce que c'était le fun. Genre.
Ce qui est plate, c'est que la plupart des scènes d'action, la plupart des scènes d'horreur, il prend une grande utilisation de la musique pour faire un jumpscare, alors que l'imagerie est pauvre, il fait pas grand chose. Il va juste avoir une ombre qui va passer devant la fenêtre, puis il va te foutre un gros bruit de musique. C'est cheap. C'est très très cheap. Puis ce qui est plate, c'est qu'on était tous hypés pour ce film-là. Puis le concept du début est tellement bon que les 30 premières minutes, tu sais pas dans quelle direction ça va aller. Puis la bande-annonce te vend de quoi? De lugubre, de mystérieux, tu sais, vraiment vers l'inconnu. Puis finalement, tu te retrouves en terrain connu. Et ce qui fait le plus mal au film, selon moi, c'est que je comprends pas les motivations des personnages. Les personnages sont pas tant intéressants. Je me suis pas trop impliqué. Surtout le personnage principal. J'ai pas tant envie de le suivre. Je vois pas trop c'est quoi. C'est l'intérêt, puis t'as un autre personnage féminin qui s'en vient s'intégrer dans sa vie, l'aider, puis être très présent pour lui, mais pour aucune raison. Je comprenais pas non plus ses motivations à elle. Fait, je me retrouve avec des...
Je pense, elle, ses motivations, c'est vrai qu'on les a jamais. Toutefois, je pense que c'est juste que ça nous prenait un personnage pour s'occuper des enfants pendant que lui est en psychose. Là.
Il y a un petit clin d'œil dans la boulangerie ou peu importe, un petit magasin où il y a une certaine attirance entre les deux, mais oui, je comprends.
Mais c'est jamais concrétisé.
Elle arrive vite dans le décor, elle, chez eux, à s'occuper de ses enfants. C'est
c'est vrai.
Ben, c'est parce qu'on a l'impression que ça va finir en histoire d'amour, mais ça amène jamais à ça, finalement. Fait que ça, j'avoue que c'est... Ben, en fait, ce que j'ai trouvé, comme je dis, là, c'est faille. En fait, je suis relativement d'accord avec un peu tous vos propos. Ça va un peu trop, un peu partout. On dirait qu'il y a eu des idées de scènes cool, il les a faites, mais il sait pas les expliquer. Puis il y en a qui se concrétisent pas, comme cette relation-là. Moi, je pense que je le résumerais comme ça. C'est pas un film parfait, loin de là, mais si vous êtes prête à vous abandonner à juste un bon moment sans réfléchir, vous allez avoir du fun, parce que c'est un film qui est très beau. Ses effets sont remarquables, son design est incroyable, mais effectivement, je pense qu'il faut pas trop s'enfarger dans les fleurs du tapis avec le scénario. Vous êtes, je pense que c'est ça, right? Non?
Oui. Moi, je dis skipper ça pour aller écouter Satan Slave.
Très bel enchaînement.
Bon, je vais être obligé de présenter Satan Slave, c'est ça que tu me dis?
Ouais, vas-y.
All right. Satan Slave, réalisé par Joko Anwar, un film de Corée du Sud et Indonésie. Ça aussi, je l'ai aimé, malgré ses clichés. Lui aussi, il y a des clichés. C'est quoi le synopsis? On a une ancienne chanteuse populaire qui est mourante dans une petite famille qui en arrache un peu monétairement. Et elle peut juste s'adresser à sa famille avec une petite cloche. Tu sais, ah, j'ai besoin de ci, cloche, j'ai besoin de ça, cloche. Finalement, elle va décéder assez rapidement au début du film. Toutefois, dès le soir même de son décès, cling, 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 cling.
On entend la cloche.
On entend encore la cloche et là, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Fait que c'est ça que je veux dire en termes de clichés. On a encore des clichés comme ça. Il y a une séquence, je vais le spoiler, de toute façon, je l'ai deviné avant qu'elle arrive et c'est ça mon propos. T'as des enfants dans le corridor, puis il y a un cadre de la mère assez creepy sur le mur, puis ils ont peur du cadre. Fait qu'ils avancent.
Raconte-le pas au complet.
Non, c'est
une
ça.
Surprise. Fais
non,
pas
c'est
ça.
Pas une surprise.
Non, c'est
une surprise.
Moi, j'avais pas vu venir.
Bon, OK. Moi, je l'ai vu venir long comme le bras. Je regardais ça, puis j'ai fait... Bon, fait que là, il va se passer ça, ça et ça. Surprise, c'est ça qui se passe. Mais, un peu... J'étais un peu dans la même zone que Night Shifter, on dirait, que Satan Slave. Ça... Je trouve qu'il se tenait plus, par contre, OK? Je trouve que l'histoire, elle se tient beaucoup plus. On parle encore de possession, de fantômes. Sauf que la fin n'a pas rapport. Fin n'a pas trop rapport. Puis ça, j'ai trouvé que ça m'a fait décrocher.
Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme, pas une parodie, mais un hommage à plein de films.
Effectivement.
On se prend pas au sérieux. Les jumpscares, Dieu sait que j'en ai fait. C'était vraiment prévisible. Tu voyais venir à 100 000 à l'heure. Là.
Mais,
à part, en tout cas, à part le drap que moi, j'ai pas vu venir.
Ah, tu veux te le dire.
Ben, c'est pas grave. C'est pas le,
non, mais
c'est
ça, on a rien dit. Non, on a rien dit.
Ben non, mais moi, j'ai... En fait, ce film-là, à la fin, j'ai fait « Wow, j'ai vraiment eu du fun ». Même la fin, moi, ben, je trouvais ça drôle. C'était dans le ton du film.
Ben, c'est ça que je voulais dire. Moi, je le mentionne parce que beaucoup en ont parlé, mais ça a pas scrappé mon visionnement. Moi, rendu là, j'étais juste abandonné au film, puis j'avais beaucoup de plaisir. Moi, là, je vois, à chaque fois que quelqu'un chiale sur un film d'horreur à cette heure, j'ai le goût de poser la même question. Combien de films d'horreur par année réinventent le genre?
Steven, je pense.
Hey, moi, on va se le dire, j'aime pas ça avoir autant le monde dans le studio parce qu'il se passe tellement d'affaires que je suis pas au courant.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pis...
Je trouve ça difficile à. Non, mais je vais juste. Parce que là, ils vont couper avec le niaisage, eux autres. Là. Mais je vais juste dire, je trouve. On s'entend, le cinéma d'horreur, c'est allé partout. C'est difficile à réinventer. Ça se fait! Mais c'est très difficile. Je pense qu'il faut arrêter de dire c'est des clichés, on l'a vu venir. Mais oui, mais c'est ça le cinéma d'horreur. Ça fait 30 ans que c'est la même affaire. Fait que je pense que le cinéma d'horreur, c'est justement ça. Il faut s'abandonner à un simple divertissement, une montagne russe d'émotions. Il y en a qui vont réussir plus que d'autres. Il y en a qui vont nous dégoûter plus que d'autres, dans tous les sens du terme. Satan Slave a fonctionné pour moi comme ça semble avoir fonctionné, ouais, pour toi, Eric. J'ai eu une maudite belle ride.
Moi aussi.
Puis c'est pour ça que je regarde ce film du cinéma d'horreur. C'est pas un film qui réinvente rien du tout, mais j'ai le design, la direction photo, encore une fois, j'ai vraiment trippé. La cinématographie est incroyable pour ce film-là. On peut pas éviter ça. C'était beau. Puis j'ai eu du fun. Mais c'est sûr que c'est encore un film de jumpscare. Qu'est-ce que t'allais dire, Eric?
Non, mais en fait, parce que tu disais, en fait, qu'étant donné qu'on nous sert beaucoup de films, ouais. Mais moi, je suis quand même... même après tous les films que j'ai vus dans ma vie, je reste quand même super critique parce que par ce que je vois. Puis je veux pas descendre mes standards parce que il y a beaucoup de films qui se copient entre eux. Puis c'est vrai qu'il y en a peu de films d'horreur de qualité, mais moi, mes standards, ils restent quand même dans le tapis, tu sais. Puis quand je vois... Moi, je suis persuadé là, que, par exemple, Satan's Slave, là, tu regardes ça chez vous, avec ta blonde, sur ton sofa, là, puis sans la crowd de Fantasia... Là,
je l'ai regardé chez nous, sur mon divan.
Sérieux?
Ben ah oui, ouais. Je l'ai revu chez nous.
Moi aussi, avec un de mes amis, puis ça a été... hyper efficace.
Oh my God, ok, ben...
avec la misère à dormir. Donc,
non, mais je comprends ton propos. Tu t'allais dire que la crowd de Fantasia ajoute à l'ambiance,
oui,
mais
absolument.
Moi, cette année, la crowd de Fantasia scrape mon ambiance. Pour ça, je regarde chez nous en screener, je vais te le dire, là. Ben moi, c'est pas j'arrête pas. Hey, oh, ok, on va, ok, hey, je vais en profiter. Après ça, on enchaîne, je vous le jure, ok, parce qu'on a encore d'autres films à mentionner que j'ai hâte de parler, là. Mais... je le sais que la crowd de Fantasia, on aime ça crier, on aime ça faire du bruit pis tout ça, mais t'es quand même au cinéma. Ferme ta gueule, tabarnak! Ferme ta gueule! J'ai eu... Moi, là... OK, je fais juste une brève mention de même...
30 secondes.
Ah non, mais on a le temps. Oh ouais. On est correct. Mais moi, là... J'ai vu The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot. Je vais pas faire la critique parce que je veux pas qu'on... Il y a d'autres choses plus importantes à parler aujourd'hui, mais je reconnais que c'est un film à 7 sur 10. Par contre, c'est pas un film pour moi parce que moi, j'ai pas eu tant de fun que ça. Mon point, c'est que le gars à côté de moi, il réagissait à tout, hostie! Il échappait un crayon à terre, il dit « Oh! » La caméra tournait vers un cadre inutile au film, puis « Ah! »
Ah non, moi, je
l'aurais tué, je l'aurais pendu dans la salle.
Je peux te tuer pour
c'est
ça.
C'est correct de rire. C'est normal qu'on rit, c'est normal qu'on fasse le saut. On la veut, cette ambiance-là, Fantasia. Elle est nécessaire et elle est agréable. Mais t'es pas dans ton salon. Ferme ta gueule à un moment donné. C'est pas juste de parler. Parler, regarder son sel, on le sait que t'as pas le droit. Mais dosez vos réactions. Le Nightmare Cinema, c'est la même affaire. J'étais à côté d'un gars qui riait à tout. Je pense qu'il rit dans le générique. Ça avait pas de bon sens. Pour vrai, The Man Who Killed Hitler... cinq fois, je me suis dit, ben non, fais pas ça. Mais cinq fois, je me suis dit, hey, là, je t'année, j'y vais. Je voulais me lever, parce que c'était jam-pack, il n'y avait plus un seul siège. Je voulais me lever puis aller finir le film dans les marches, tellement je voulais m'éloigner de ce gars-là. Mais bon, c'était juste un petit rant. Je m'excuse. J'avais vraiment envie de me vider le cœur. OK, OK, on enchaîne. Ben, excuse-moi, tu voulais... Vas-y.
Je peux te revenir sur cet Enslaved? Je m'en vais comme dans Apollo.
Oui, vas-y. Vas-y.
Je m'en vais dans Apollo, c'est le dernier film que je veux parler. Cet Enslaved, c'est Conjuring 2.0, indonésien. C'est la montagne russe horrifique que j'ai eue cette année en Fantasia. J'ai eu beaucoup de fun parce que la culture indonésienne en rajoute beaucoup au film. Photographie digne de... Conjuring, justement, la photographie années 80 est très réussie, puis le réalisateur, et on dirait que, comme mon chum l'a si bien dit, est allé à l'école James Wan, puis la manière qu'il construit ses build-up de tension, ses scènes d'horreur, c'est vraiment de manière intelligente, avec des longues séquences, des longs plans, des jeux de caméra, puis il arrive à jouer avec ça, puis tu sais, tu disais, je suis tanné des clichés ou des histoires
non, moi,
trop prévisibles,
mais
en tout cas, il y a
mais, tu sais, moi, je le mentionnais, c'est tout.
Tout dépend de qu'est-ce que le réalisateur va faire avec ça. The Night Shifter, c'est le meilleur exemple. Le réalisateur fait pas grand-chose avec une histoire aussi cliché qu'on s'emmerde. Le gars pour Satan's Slave arrive à créer des méchantes séquences d'horreur vraiment efficaces. T'as une famille super super attachante, les petits-enfants sont super attachants. Puis, comme le dit Eric, on dirait que ce film-là, c'est un blender des meilleurs éléments de ce qu'on a eu dans le cinéma d'horreur, que ce soit japonais, que ce soit américain. Puis, tu combines ça en un tout pour te faire une espèce de roller coaster de la mort. Le setup de cette maison-là est tripante, là. La maison donne lieu, la chambre des enfants donne lieu, la fenêtre. La chambre des enfants donne lieu sur un cimetière. En bas de leur maison, il y a un puits digne de The Ring. Il y a un corridor avec une espèce de cadre creepy.
Elle est parfaite, la maison.
La maison, c'est vraiment la maison parfaite pour avoir des
un
moments
setting,
de foule. Là, c'est un setting parfait. Puis honnêtement, je me suis pas emmerdé de tout le film. Je trouvais que c'était bien rythmé, bien foutu. Puis comme je dis, le côté culturel indonésien en rajoute
beaucoup.
Ah, ça
y est hot, hein?
Puis moi, on m'avait vendu d'avance que la première heure était efficace, mais la dernière séquence était vraiment prévisible. au contraire, moi, ce final-là, je l'ai pas vu venir, puis ça se transforme en un autre style de film que je peux pas mentionner, mais j'ai
faut pas le dire, mais
je trippais. Moi, j'aurais pris un 10 minutes de plus, je trouvais juste que c'était trop court, mais écoutez, les fans de Conjuring, vous allez prendre votre pied. Tu sais, oui, c'est du déjà vu, mais le réalisateur, là, il arrive à te faire ça haut la main avec beaucoup de talent, puis j'ai vraiment pris mon pied, sérieux.
Je seconde tout ce que t'as dit, Steven. Merci. Donc, tu quittes parce que tu vas voir
Buddies.
All right. Il va voir Buddies, un film de Battle Rap.
M&M.
Ouais, je te laisse partir.
Par le réalisateur de Detention, ça va être trippant.
Puis réalisateur, on l'a eu en entrevue au talk show Fantasia, il est très sympathique, puis très loquace, il était pertinent, j'ai adoré l'entendre parler. Je pense que tu vas aller voir un maudit bon film pour vrai, Steven. Je te souhaite une belle projection.
Je suis confiant. Merci beaucoup les boys.
Merci Steven.
À la prochaine les amis.
Alright, cool, ciao ciao. Ok, moi, là, je dépasse tout le monde. Je veux entendre parler de The Dark parce que c'est un film que j'ai vraiment hâte de voir, Eric. J'aimerais t'entendre sur ça.
En fait, c'est Marc qui va en parler.
On peut en parler.
Ah, j'ai dit Eric. Ah, excusez, je voulais dire Marc.
Oui, oui, tu. Je comprends la confusion.
Excuse-moi. Trop de monde dans le studio, je suis tout mêlé.
Écoute, mais tu sais, The Dark, là, c'est exactement. Moi, j'ai découvert des films comme Let the Right One In ou Haute Tension, Wreck. Tu sais, c'est des films que j'ai vus pour la première fois à Fantasia où quand il n'y avait pas ben de buzz alentour de ces films-là. Puis The Dark, c'est un peu mon équivalent cette année parce que je m'attendais à. Puis là, j'espère pas vous le hyper, là, parce que ben là, c'est la pire des choses au monde.
Trop tard.
Sans Haute Tension.
Puis c'est ma découverte de l'année. En fait, le film que je m'attendais pas à, parce qu'il y avait pas vraiment de bande-annonce. Hein. Si vous avez fouillé sur le site, là, tout ce qu'on voyait, c'est une séquence.
Ouais.
Je vais pas trop en raconter non plus parce que ça utilise un peu le principe. C'est voulu, c'est inspiré un peu. Ben, ça s'inspire un peu de la structure de Psycho, de Hitchcock. Donc, on suit un personnage qui nous introduit vers un autre personnage. Donc, au début du film, on suit un monsieur qui est monsieur un peu âgé qui est en cavale,
ouais, en flûte, ouais.
Puis qui se réfugie dans une petite maison abandonnée dans une forêt. Que les habitants décrivent comme étant hantés ou en tout cas on sait pas trop ce qui se passe dans cette forêt là. Puis dans cette petite maison là, il va faire la rencontre d'un personnage d'un monstre, appelons-la comme ça.
Ouais.
Puis c'est un peu la prémisse de départ. C'est un film qui rappelle beaucoup. Je parlais de Let the Right One In. C'est une des inspirations du réalisateur aussi à travers tout ça. Puis j'ai trouvé que d'un point de vue de la narration, ça accotait. Pour moi, ça accotait ce genre de film de qualité-là parce qu'il y a une relation qui va se développer entre deux adolescents qui sont, on peut le dire, là, qui sont des monstres.
À leur manière.
Oui, à leur manière. Là. Puis qui devient excessivement profonde et touchante.
Tout à fait.
Puis c'est dosé avec des moments d'horreur qui fonctionnent très bien. Puis c'est un. Je veux juste mentionner que c'est un premier long métrage. Fait que ça aussi, ça m'a. Tu sais, des fois, tu t'en vas voir un premier long métrage, tu te dis, OK, tu sais, le gars, il va essayer. Mais non, le réalisateur, il a l'air de connaître les codes de l'horreur sur le bout de ses doigts, puis arrive à nous proposer un produit de qualité, autant de qualité avec son premier film. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. J'ai eu même la chance de discuter avec lui après on s'est rencontrés pour la critique va sortir bientôt sur Horreur Québec, petite plug.
Horreur.Québec, vous irez voir ça.
C'est cela. Puis c'est quelqu'un, il a mis 6 ans en fait à travailler sur ce film-là.
Quand même, hein?
Donc quand on comprend ça, on comprend que ça donne un produit de qualité où tout est excessivement pensé, tout ça, même les maquillages. Je peux te laisser.
Non, mais je trouve que tu résumes bien. Oui, les maquillages, mais la petite fille, j'oublie, je sais pas si c'était son nom.
L'actrice. Mina. Ben, j'ai pas son nom, mais le nom du personnage, c'est Mina.
Ah ouais. Elle est excellente.
Ouais.
Elle a réussi à rendre un monstre attachant et sympathique.
Ouais.
Quand même.
Oui.
Puis on parlait des elle aussi elle a un maquillage oui, excessivement élaboré qui en tout cas
qui est super bien fait puis oui. son ami si on veut là, c'est bien fait aussi quand même
ouais. Son ami qui est aveugle en fait qui a les yeux tout brûlés on le voit c'est pas un spoiler parce qu'on le voit ouais. dans des
j'osais
dans
pas le dire mais c'est correct
ben c'est la tête d'affiche c'est lui qu'on voit sur le poster
ouais c'est ça
ouais. Ok
donc puis là on s'excuse parce qu'on est vague mais moi on en sait mieux aussi
oui hein. Ouais c'est ça des fois il y a des films dur à présenter.
Ce que je peux dire vite, c'est que contrairement à Blue My Mind, qui met des adolescents en scène, mm-hmm. là, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment ému, puis je trouvais que c'était mieux construit. Puis c'est pas, tu sais, c'est horreur là, mais c'est un drame aussi.
Un drame horrifique.
Un drame horrifique. Ouais.
Ouais. Mais il y a quand même des bonnes doses d'horreur là qui sont venues me chercher.
Je me souviens pas si j'ai fait des jumps là, mais
probablement.
On les compte plus. T'sais.
Non, on les compte plus. Mais je suis d'accord avec Marc. Moi, c'est un de mes coups de cœur là. Nice. Avec Luz, okay.
On sait que c'est distribué Luz. On sait que c'est distribué en octobre aux États-Unis, donc ça va s'en venir éventuellement ici.
Ok, cool.
On suit ça de près.
Génial. Ben là, on a le temps pour peut-être un dernier film. On a le choix. Soit Eric nous parle de Profile, qui a l'air d'être un coup de cœur assez unanimement, ou on va avec Oli qui nous parle de Cold Skin. De quoi vous voulez entendre parler à la maison? On passe au vote.
Moi, je peux le faire rapidement, Ali. T'es-tu capable de faire le tien rapidement?
Je vais faire, avec le temps qu'on a, Cold Skin.
3 minutes.
Je te clante ça.
OK.
On vient après faire pour la semaine prochaine. Je vais faire ça vite aussi. Cold Skin, finalement, c'est un film de Xavier Gans. Je sais jamais comment dire son nom de famille. Donc, c'est lui qui a réalisé...
Je sais jamais comment dire aucun nom de famille.
Non, moi...
moi, je te comprends tellement.
J'ai ri de mon bord. Qui a, entre autres, réalisé Frontières, qui a fait de Divide. Ah oui, okay. Qui a fait Hitman, aussi en jeu vidéo. Pas en jeu vidéo, mais de jeu vidéo en film. Et, tu sais, grosso modo, l'histoire est très simple. Donc, ça se passe dans les années 800 ou début 900, dans l'ancien temps. Donc, c'est un jeune, finalement, qui arrive sur une île, si on veut, qui est comme un genre de weatherman. C'est quelqu'un qui va calculer les vagues, le vent, pour les... tu sais, les régions côtières et tout, là, pour les bateaux, etc. Sauf que dans la petite maison où il réside, il n'y a pas trop loin, il y a un phare où il y a un homme qui est reclus là-dedans. Vraiment reclus, là. Mystérieux et tout. Et c'est pas long, l'action commence vite. Où la première nuit, où il se fait attaquer, finalement, sa petite maison se fait attaquer par des créatures qu'on voit pas. Il en a blessé une. Donc, le lendemain, première des choses qu'il fait, c'est qu'il va voir, finalement, cet homme-là pour lui demander de l'aide. Et on se rend compte que, ben, cet homme-là, à chaque soir, va combattre des hordes de ces créatures-là qui sont comme des hommes poissons, si on peut les appeler comme ça, qui gravitent la fameuse le fameux phare qui est blindé avec les meurtrières et tout. Et lui a sous sa possession une femme poisson qui est complètement inoffensive, qui est hyper attachante, vraiment. Le film repose sur elle, vraiment. À chaque moment où moi je la voyais, elle, je suis comme, oh, tu sais, comme t'as juste le goût d'être son amie. Puis, et à savoir, ben, pourquoi les fameux hommes poissons viennent franchir la tour pour pouvoir entrer en dedans, c'est assez prévisible. C'est très, comme tu l'as dit, H.P. Lovecraft. Ça fonctionne, tu sais, si on compare à d'autres films, bon, je sais pas, on va dire Dagon, qui est vraiment de Lovecraft, tandis que celui-là, vraiment, il emprunte, puis il n'y a pas honte, là, que, voyons, Xavier, de s'approprier ça. La fin aussi est un petit peu prévisible, à savoir qui elle est en réalité. Dès le départ, il ouvre un livre où on voit des dessins, on clique tout de suite. Donc, c'est pas un film qui a inventé le fil à couper le beurre, mais je m'attendais à rien. J'avais vu un beau poster, je me suis dit bon, et j'ai écouté ça, honnêtement, j'ai écouté de chez moi, très 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 relax, et je suis pas déçu. Tu sais, je lui donne un 6 sur 10, qui est pas mauvais. Je m'attendais à rien, et pour des amateurs de créatures comme ça, si on pense à The Shape of Water, bon, qui est sorti, qui était celui-ci est sympathique. Tu sais, j'ai eu du plaisir quand même à regarder le film, même si ça reste quelque chose de prévisible.
Ok, cool. Ben, merci beaucoup les boys. Hey, je suis brûlé. J'ai de la misère à parler. Merci beaucoup pour vos critiques. Le festival se poursuit encore jusqu'au 2 août. Il reste encore, en fait, là, dans la programmation, il reste encore des films dont je suis très hypé. Plusieurs titres qui s'en viennent. Mm-hmm.
Terrified,
là, c'est à ne pas manquer. Si la salle est pas pleine, je sais pas ce que ça va prendre. C'est le film d'horreur qui est le plus hypé cette année à Fantasia. Il paraît, hein, on dit bien il paraît, parce qu'on l'a pas vu personne encore, que c'est le film qui va nourrir vos cauchemars des prochaines années.
Oh, on l'espère.
Mon Dieu.
C'est comme ça qu'on me l'a décrit.
Vous assurez, à mes côtés.
Non, ça, c'est pas une bonne idée.
Oui, à moi, oui.
Dans ma vie,
oui. Ben, oh, oui, si God, vous voulez rire,
fun.
Oui, là.
C'est tellement fun. Moi, je te dirais Piercing, tout
Piercing,
le monde.
Piercing, on a
de Nicolas Pesch, celui qui nous a pondu il y a 2 ans, Lex, le masterpiece. Selon moi, The Eyes of My Mother, que j'anticipe énormément. Mm-hmm. Je pense que c'est lui que j'enligne comme du monde.
Mais as-tu d'autres suggestions à surveiller, guys?
Ah, mais non, on peut pas le suggérer, c'est sold out, man.
Ben moi, j'ai Searching qui va faire le lien avec Profile, dont je voulais vous parler. Ça va être la semaine prochaine.
On vous invite à voir le site web fantasiafestival.com pour tout l'horaire. Il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent. Nous, on vous revient pour un dernier épisode, retour sur la dernière semaine de festival, le 7, donc mardi prochain. On va encore se chicaner au studio. j'ai bien out, je suis excité, maudit beau festival, heureusement ça s'est repris, ça s'est réveillé en deuxième semaine, on va se croiser un peu partout à Concordia. Merci d'avoir été là les boys, merci pour vos critiques éloquentes et constructives. On se laisse une chanson sélectionnée par Olivier, tu veux-tu nous la présenter?
Oui, c'est Stigmata Martyr de Bauhaus.
Sur la série du soundtrack Night of the Demons.
Night of the Demons, oui.
All right. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine ou à Fantasia.
Bye.
Stigmata bleed continuously. Poison hells and demons before me. Stigmata, oh, you sorrowed sight. Stigmata in your splintered light. Look to your crimson orifice in hope.